Alors Bertrand Thirion est responsable de l'équipe INRIA CEA Pariétal, qui est installée sur la plateforme Neurospin du CEA à Saclay. Diplômé de l'École polytechnique en 1998, Bertrand Thirion a préparé sa thèse soutenue en 2003 au sein de l'équipe Odyssée de l'INRIA Sophie Antipolis. Ses travaux de recherche actuels portent sur l'apprentissage automatique pour la neuroimagerie, appliqué à des problèmes d'analyse de groupe, de connectivité fonctionnelle cérébrale et également de décodage de l'activité cérébrale. Il a publié un grand nombre d'articles dans ces domaines. Bertrand Thirion est expert auprès de l'ITMO Neurosciences, responsable du sous-projet cartographie individuelle cérébrale du projet emblématique européen Human Brain.
Bonjour à tous et donc merci Nicolas de m'inviter à parler de ce sujet qui lie la fonction cérébrale avec la génétique et qui est un sujet un petit peu nouveau, un tout petit peu jeune, sur lequel je vais donner mon point de vue de méthodologiste. Alors dans cette présentation, je vais prendre le point de vue que l'imagerie cérébrale fonctionnelle nous permet de quantifier l'organisation du cerveau et ceci de deux manières principales. À partir des images qu'on acquiert, on peut soit quantifier les réponses évoquées par la présentation de stimuli et qui vont donner pour chaque région du cerveau une quantité d'activation en réponse à cette stimulation, ou d'une autre manière, à partir d'un ensemble de régions du cerveau, on peut calculer une matrice de corrélation de signaux entre ces régions, ce qu'on va appeler la connectivité fonctionnelle, et ça c'est un autre indice quantitatif qu'on va pouvoir utiliser pour comparer des individus, comparer des populations. Une fois qu'on a extrait ces indices quantitatifs des images fonctionnelles du cerveau, eh bien, on peut les comparer à des données génétiques, aux variations génétiques qu'on a dans la population qu'on étudie, ou à des mesures comportementales ou cliniques qu'on aurait chez ces mêmes individus. Alors, je vais commencer d'abord par vous expliquer un petit peu comment on obtient ces marqueurs d'imagerie fonctionnelle. Alors, tout d'abord, l'imagerie fonctionnelle. Alors, il y a plusieurs types d'imagerie. Moi, je vais vous parler simplement de l'IRM fonctionnel, qui est la seule modalité non-invasive qu'on peut utiliser chez l'homme pour voir le cerveau, le fonctionnement du cerveau à une résolution de 2 mm à peu près. Quand les neurones d'une région du cerveau s'activent parce qu'ils reçoivent de l'information en lien avec un protocole expérimental, eh bien, il se produit un afflux massif de sang oxygéné dans cette région du cerveau. C'est un effet un petit peu paradoxal puisque l'activité des neurones devrait consommer de l'oxygène, d'ailleurs elle en consomme, mais elle est surcompensée par un afflux de sang oxygéné. Il se trouve que l'IRM est sensible à l'oxygénation du sang et donc cet afflux de sang oxygéné produit une augmentation du signal IRM. C'est une découverte fortuite faite sur les rats en 1990 et reproduite 2 ans après sur l'homme. On s'est aperçu que le cortex visuel chez l'homme avait un signal qui changeait lorsqu'on présentait un flash visuel. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Si à l'instant T0, je vous présente un stimulus, par exemple un flash visuel, pendant 1 seconde, mettons, eh bien, dans une région particulière du cerveau, donc du cortex visuel, un observateur idéal pourrait observer pendant 5-6 secondes une augmentation du signal IRM qui redescendrait ensuite pendant 10 secondes pour repasser même en dessous de son niveau initial et puis au bout de 20 secondes rejoindre le niveau initial d'activation. En pratique, ce qu'on va observer, c'est un échantillonnage toutes les 2 secondes de cette activité. C'est-à-dire qu'on aura, toutes les 2 secondes, on aura un point de mesure de cette courbe, ce qui donne un échantillonnage discret de cette réponse temporelle. Ça veut dire qu'en fait, on peut acquérir un volume du cerveau complet en 2 secondes à peu près, avec une résolution de 2 mm actuellement, qui est en train de s'améliorer. Et donc, ceci donc, nous donne les images fonctionnelles, qui sont des images à 4 dimensions, hein, 3 dimensions spatiales, 1 dimension de temps, qu'on va pouvoir exploiter. Alors, après la découverte de ce phénomène, les gens ont essayé de le comprendre mieux. Et première question, est-ce que c'est un phénomène linéaire? C'est-à-dire que si on stimule 2 fois plus la personne, est-ce que la réponse est 2 fois plus forte? Ou si on répète la stimulation qu'on la prolonge, est-ce que la réponse observée correspond à la superposition des réponses successives? Alors, la réponse est oui, essentiellement, à ces deux questions. Le phénomène est essentiellement linéaire et c'est bien commode. Ça nous permet de détecter les réponses du cerveau avec des modèles statistiques linéaires. Deuxième information très importante, on a pu confirmer quelques années après que le signal BOLD, ah oui, il s'appelle BOLD pour Blood Oxygen Level Dependent, le signal BOLD est fortement corrélé avec les potentiels de champs locaux qui mesurent en fait l'activité d'ensemble d'une population de neurones à un endroit du cortex. Donc, avec des enregistrements simultanés, on a confirmé une très forte corrélation entre le BOLD et l'activité des neurones de cette région. Troisième bonne nouvelle, le signal BOLD a une bonne résolution spatiale de l'ordre de 2 mm, c'est-à-dire qu'avec de l'IRM à haut champ, on mesure en fait les réponses de toutes dans les petites veines qui sont très proches des vrais sites de l'activation neuronale. Et donc, on a une bonne spécificité spatiale du signal. En revanche, la résolution temporelle est faible, de l'ordre de 5 secondes, comme je vous ai dit. Et puis, on n'a pas un modèle complet du signal. On se repose encore sur des modèles phénoménologiques pour pouvoir analyser le signal. Alors, l'imagerie BOLD chez l'homme en pratique, eh bien, on va donc introduire un sujet dans l'IRM, lui présenter des images, des sons, lui faire faire des tâches manuelles, etc., et enregistrer les réponses qui s'en suivent. Ainsi, on peut obtenir les réponses du cerveau pour la lecture de mots, pour des tâches de langage qui montrent tout un réseau du langage à la fois préfrontal et temporal, des tâches motrices qui montrent le cortex sensoriel et moteur, des tâches auditives où le sujet écoute des phrases, enfin une tâche de calcul mental où on voit tout un réseau dorsal attentionnel s'activer, ainsi que des zones plus spécialisées dans la représentation des nombres. C'est ce qu'on appelle un principe de ségrégation, c'est-à-dire qu'en faisant ce genre d'expérience, on peut caractériser finement la fonction de chaque zone du cerveau, on peut même d'une façon unique caractériser chaque zone du cerveau par son activation fonctionnelle. Et c'est également un indice quantitatif. Alors, un autre indice quantitatif, il nous vient de ces données où, cette fois-ci, le sujet ne fait plus rien du tout dans l'IRM. On lui demande simplement de garder les yeux ouverts pour qu'il ne s'endorme pas et on regarde simplement l'activité spontanée qui se produit dans le cerveau du sujet pendant qu'il est au repos dans l'IRM. Alors, à première vue, on voit que du bruit. Mais il se trouve que ces signaux apparemment bruités encodent des informations sur l'organisation du cerveau. Alors, comment est-ce qu'on va extraire cette information? Eh bien, on va définir un certain nombre de régions cibles qui nous intéressent. On va regarder les signaux de ces régions et on va, par exemple, calculer la matrice de corrélation entre l'ensemble de ces signaux. À partir de cette matrice de corrélation, on peut construire un modèle graphique qui représente la force des connexions fonctionnelles entre les régions cérébrales distantes. Alors, je vais vous expliquer cette dernière étape qui est un petit peu mystérieuse. Quand vous calculez les corrélations entre les régions, vous obtenez une matrice de corrélation empirique qu'on va appeler sigma chapeau, chapeau parce que c'est une observation à partir des données. Et avec ça, vous pouvez, en supposant que le signal est généré par une variable gaussienne centrée, eh bien, elle est complètement caractérisée par sa matrice de covariance. Et donc, on peut calculer en fait, la matrice de covariance, ou dans ce cas-là, en fait, la covariance inverse K, qu'on appelle la matrice de précision, qui pourrait générer les signaux. Et donc, on va prendre la matrice qui réalise le maximum de vraisemblance qui nous fait résoudre ce problème-là, qui est assez simple. Alors, comment est-ce que ça peut se comprendre? Eh bien, imaginez que le vrai modèle du réseau soit celui-ci. Donc, c'est un réseau à 5 nœuds, avec certains nœuds qui sont reliés. Quand vous observez les corrélations, en fait, vous voyez qu'en fait, tous les nœuds sont un petit peu corrélés entre eux. Pourquoi? Parce que, par exemple, les nœuds 2 et 4 n'ont pas de lien direct entre eux, mais comme ils sont tous les deux reliés au nœud 3, eh bien, ils ont une corrélation non nulle entre eux. Le fait de remonter de la corrélation observée à la matrice de covariance inverse ou la matrice de précision permet en fait de trouver ce qu'on appelle les corrélations partielles. La corrélation partielle entre le nœud 2 et 4, c'est la corrélation qui demeure une fois qu'on a enlevé l'impact de tous les autres nœuds du réseau. Eh bien, cette corrélation-là est nulle. Donc, on obtient ainsi un modèle beaucoup plus, le modèle correct de la structure de ce réseau. Alors, en pratique, estimer la matrice de précision, c'est un problème inverse mal posé, et donc il va falloir le régulariser. Et une manière adaptée de le faire, c'est d'imposer une hypothèse de parcimonie. Parcimonie parce qu'on peut penser que toutes les régions du cerveau ne sont pas connectées entre elles, et effectivement, ce n'est pas le cas. Et donc, on pourra essayer de limiter le nombre de connexions qu'on va estimer. Et ça, on sait depuis très longtemps que c'est une hypothèse qui améliore l'estimation du modèle de covariance. Et donc, la manière moderne de résoudre ce problème, c'est d'imposer une hypothèse de une régularisation avec une norme dite L1 qui va tendre à annuler le plus de coefficients possible. Donc, concrètement, eh bien, on résout le même problème que tout à l'heure, mais on a ajouté une petite pénalité ici qui est la norme L1 des coefficients non diagonaux de la matrice K et qui va nous donner un nouvel estimateur de la matrice de précision qui se comporte beaucoup mieux que l'estimateur original. En plus, on a de la chance, c'est un problème qui reste convexe, donc on a unicité de la solution, ce qui est bien agréable. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne va pas faire ça chez un sujet. En fait, on va observer une population d'individus et on voudrait pouvoir construire le modèle de la connectivité fonctionnelle à partir de l'ensemble des individus. Donc imaginez 6 sujets avec 6 matrices de corrélation observées. On voudrait pouvoir construire le bon modèle avec la bonne topologie à partir de tous ces individus. Eh bien, on sait également calculer un modèle parcimonieux au sein d'un groupe de sujets, tout simplement en résolvant le problème chez chacun des individus en parallèle et en couplant en fait, les différentes estimées par une régularisation jointe qui va imposer que les coefficients IJ de la matrice K soient nuls au même endroit à travers les individus. Donc cette technique, ça s'appelle le graphe Lasso. Enfin, en anglais, je ne connais pas le terme français, on va appeler ça le groupe Graff-Lasso, donc qui permet d'estimer ces matrices de précision conjointement sur un groupe d'individus. Alors, par exemple, à partir d'une douzaine d'individus qu'on avait observés, on a pu obtenir ce modèle de la connectivité cérébrale fonctionnelle qui en fait, montre des tas de caractéristiques intéressantes et effectivement vraies de la connectivité cérébrale. Par exemple, la connexion du cortex occipital au cortex temporel, donc par une voie ventrale, une voie dorsale qui monte dans le cortex pariétal, beaucoup de connexions interhémisphériques, des connexions fronto-pariétales, un réseau moteur densément connecté. Donc, autant de choses auxquelles on s'attendait et qui sont effectivement confirmées lorsqu'on construit des modèles quantitatifs de la connectivité cérébrale fonctionnelle. Et ça parce qu'on a construit un modèle qui arrivait à prendre l'information de tous les sujets et d'imposer des a priori bien adaptés. Alors, donc concrètement, avec ces modèles, eh bien, on va construire des chaînes de traitement de données qui, partant des données acquises, des données 4-dimensionnelles qu'on a acquises à l'IRM, donc pendant que le sujet se repose, eh bien, on va par exemple pouvoir d'abord faire des décompositions des données qui permettent de trouver des décompositions spatiales. On va extraire des régions de ces cartes spatiales. On va associer à chacune des régions trouvées un signal, donc le signal qu'il y avait dans les données originales, ce qui nous donne ces décours temporels. On va calculer les matrices de corrélation, on va estimer les modèles de covariance régularisés avec les modèles gaussiens qu'on a proposés. Et enfin, quand on a fait tout ça, on peut faire les tâches d'analyse statistique et de classification, par exemple une tâche de diagnostic, où on va chercher à diagnostiquer une pathologie chez ces individus, à partir donc de ces modèles de la connectivité fonctionnelle. Donc on est en train de faire ça actuellement sur une étude multicentrique sur 700 individus donc, qui proviennent de 16 lieux différents, donc des données très hétérogènes avec une qualité très variable. Eh bien, on arrive à les traiter ensemble avec ces chaînes de traitement. Quand même, pour mémoire, ça représente 300 gigaoctets de données en entrée à traiter si on prend toutes les images de tout le monde. Et donc, également en termes d'informatique, une infrastructure de traitement à mettre au point pour analyser ce genre de données. Alors ça, c'était la belle histoire de l'IRM, mais la réalité n'est pas toujours aussi rose. D'abord, l'IRM fonctionnel traduit également des tas d'effets non spécifiques à l'activité neuronale. Par exemple, vous avez des signaux basse fréquence qui sont liés en fait, à l'IRM elle-même et à ses interactions avec les rythmes physiologiques du sujet pendant l'expérience. Vous avez le mouvement de la tête. Le sujet doit rester quand même plusieurs minutes pendant l'IRM immobile, avec une tête bien calée, mais quand même, la tête va bouger probablement de quelques millimètres. Eh bien, ce mouvement a un impact sur les signaux de bien des régions du cerveau, notamment en périphérie, près des ventricules. Comme l'IRM est sensible à l'oxygénation du sang, le rythme respiratoire et le rythme cardiaque ont également un impact très fort sur les signaux observés. Donc, il faut être très prudent quand on va interpréter ces signaux. Ils ne reflètent pas que l'activité neuronale. Il faut être très soigneux dans la manière de traiter et d'ébruiter les données. Autre point essentiel, donc Nicolas en a reparlé encore dans sa leçon, c'est la variabilité interindividuelle. Vous prenez ici une tâche de calcul faite par 5 sujets et vous regardez en un point donné du cerveau après donc recalage et déformation des images. Eh bien, vous voyez que vous avez des pics fonctionnels qui vont, soit vous ne les observez pas, soit ils sont un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Il reste toujours une variabilité de localisation parce que vous savez qu'on ne peut pas recaler parfaitement la forme des cerveaux. Également, la quantité d'activation est variable d'un individu à l'autre. Et puis l'organisation du réseau est variable parce qu'on n'utilise pas forcément tous les mêmes aires du cerveau pour faire toutes les mêmes tâches. Voilà. Alors, pour pouvoir faire des études de cohorte en neuroimagerie et donc comparer de façon valable ces données fonctionnelles à des variables comportementales ou génétiques, il va falloir augmenter la taille des cohortes à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'individus. Et ça requiert de faire des études multicentriques pour pouvoir recueillir des IRM de plusieurs sites. Il va probablement donner des données relativement hétérogènes. Le schéma d'analyse habituel consiste à prendre un point dans l'espace du cerveau, de regarder le signal qu'on a à travers les individus pour cette région du cerveau et de la comparer donc, à des variables externes qu'on souhaite analyser. Donc, par la suite, je vais particulièrement m'intéresser aux données du projet Imagen, qui est un projet européen qui a fini il y a 2 ans et qui est le plus gros projet actuellement qui est fait de l'imagerie fonctionnelle avec de la génétique, donc en l'occurrence sur 2000 adolescents pour étudier les facteurs de risque de l'addiction. Donc, je passe à ce défi de l'analyse génétique et la neuroimagerie fonctionnelle. Alors, essentiellement, le raisonnement qu'on fait en faisant ce genre d'études, c'est de dire que nos gènes en fait, vont déterminer, les variants de nos gènes vont déterminer la structure de notre cerveau, notamment la croissance du cerveau, et vont résulter en une forme de variabilité du cerveau, mais qui en plus va être également modulée par des facteurs environnementaux. Donc tout le développement du cerveau et toute la plasticité va jouer et faire qu'on a à la fin, au bout de plusieurs décennies, tous des cerveaux très différents. Et cette variabilité, elle va être observée de deux manières. D'une part, les images cérébrales, évidemment, vont proposer une image imparfaite. Et par ailleurs, le comportement du sujet, éventuellement certains symptômes, vont être observés. Et donc, ce qu'on cherche également aujourd'hui à déterminer, c'est comment la génétique donc, influence le comportement et les images cérébrales en lien avec les facteurs environnementaux. Alors, quand je parle d'information génétique, je vais parler de ce qu'on appelle les SNPs, les Single Nucleotide Polymorphisms, qui représentent environ 1 million de sites sur le génome parmi les 3 milliards de paires de bases. On choisit en fait 1 million de sites où il y a la plus grande variabilité dans la population, on va dire, population standard, et qui résume en quelque sorte la variabilité génétique à travers les individus. Alors, je vous donne un exemple d'étude qui a été faite récemment sur la base Imagen. On s'est intéressé à un des gènes, le gène OXTR, qui code pour un récepteur de l'ocytocine. Eh bien, on voit que suivant les allèles dont vous disposez pour un certain SNP de ce gène, eh bien, vous aurez plus ou moins d'activation dans la région du striatum ventral. Alors, ce qu'on voit ensuite, c'est que sur une population, je crois, de 400 individus, l'interaction entre une variable environnementale, donc le nombre d'événements de vie stressants vécus par les individus et qu'on prend l'interaction avec ce gène, eh bien cela explique bien certaines variables comportementales, notamment les problèmes de socialisation chez les garçons de l'étude. Et par ailleurs, on observe que les porteurs de l'allèle mineur montrent une corrélation entre l'activité du striatum ventral et les problèmes de socialisation. Donc en fait, ceci montre qu'entre le gène et le comportement, il y a différents chemins, dont certains sont visibles en termes d'activation cérébrale dans le striatum ventral. Un autre exemple tout récent, qui vient juste de sortir, où on s'intéresse toujours au striatum ventral, pour les problèmes d'addiction, etc., c'est une zone clé, évidemment, également au noyau codé, qui est important pour les problèmes d'apprentissage, et à un gène qui code pour les récepteurs de dopamine. Eh bien, on a pris un SNP de ce gène et on a d'abord observé que ce SNP prédisait assez bien un score de mémoire de travail, une variable comportementale qu'on avait mesurée chez ces individus de la cohorte. Et ce qu'on a observé également, c'est le lien entre la mémoire de travail, une capacité des individus, avec l'activation du striatum ventral et du codé, donc cette partie ici, le noyau codé, pendant une récompense. Et enfin, ce qui a été observé, c'est l'activation du striatum ventral, non plus pendant la récompense, mais pendant l'anticipation de la récompense. Eh bien, celle-ci est liée à la mémoire de travail, mais uniquement pour les porteurs de l'allèle mineur pour ce SNP. Donc on voit ici typiquement comment une variable génétique va moduler en quelque sorte le lien statistique entre une variable comportementale et une variable d'activation cérébrale. Alors ces résultats sont très prometteurs et pourtant ils sont fragiles. On pourrait même dire que le consortium Imagen n'a pas réussi à vérifier toutes les hypothèses qu'il avait sur les risques d'addiction et les facteurs d'impulsivité dans le cerveau. Et ça, je crois que c'est important de le comprendre. Notamment dans les exemples que je vous ai donnés, à chaque fois on part d'un exemple, d'un cas un petit peu particulier où on observe une corrélation entre des variables qu'on a choisies. L'ennui, c'est qu'il y a tellement de variables disponibles qu'on pourrait tout à fait observer par chance des corrélations même plus importantes entre certaines variables, parce que, à force d'observer des variables, on finit par trouver des associations juste par chance. Et ça, c'est un problème qui est très bien connu en génétique, où les résultats d'il y a 15 ans sont à peu près tous à jeter à la poubelle. Désormais, le critère de sélection pour les résultats génétiques, c'est une p-valeur, une spécificité de 10 puissance moins 8. Pourquoi 10 puissance moins 8 ? Parce que quand vous avez 1 million de variables que vous testez et que vous voulez à la fin un contrôle de 1%, c'est-à-dire une chance de faire une détection de 1% si vous n'avez aucune association, eh bien, il faut contrôler chacun des tests à 10 puissance moins 8. Maintenant, si vous rajoutez à ça 10 000 variables décrivant le cerveau, je prends 10 000 à peu près comme ça, au pif, on arrive à un contrôle à 10 puissance moins 12. Et là, il est clair que aucun des résultats que je vous ai montrés ne passe un de ces tests-là. Alors, un autre critère intéressant qui est devenu maintenant un must, on va dire, en analyse génétique, c'est la reproduction du résultat sur une deuxième cohorte. Et effectivement, au moins le deuxième travail dont je vous ai parlé utilisait une double cohorte pour valider les résultats. Néanmoins, il semble que le manque de puissance statistique soit le problème principal ici. Pourquoi ? Parce qu'on mesure des effets minuscules. L'effet d'un variant génétique sur le fonctionnement du cerveau, c'est quelque chose, a priori, sauf certains cas très particuliers, c'est un effet minime. Et si on veut pouvoir l'observer, il faudrait des cohortes gigantesques. Alors, il y a quelques projets, par exemple en Grande-Bretagne, un projet de biobanque avec 500 000 individus pour faire vraiment une grande étude épidémiologique qui comporte donc de la génétique et puis de l'imagerie cérébrale. Alors, dans le temps qui me reste, je vais juste vous exposer quelques pistes qu'on explore dans l'équipe pour essayer quand même d'améliorer les problèmes d'analyse statistique qui existent entre le comportement, la génétique et la neuroimagerie. Alors, il y a 4 pistes. La première consiste à introduire des a priori quand on fait d'analyse sur les images, d'analyse statistique sur les images. Le deuxième, c'est d'introduire des modèles statistiques robustes. Le troisième consistera à regrouper les variables génétiques comme dans les analyses d'héritabilité. Et la quatrième approche consiste à avoir une approche prédictive, c'est-à-dire à voir comment un ensemble de caractéristiques pris ensemble prédit une variable extérieure. Je commence par le premier, qui est l'introduction d'a priori spatiaux. Alors, je vous ai expliqué que la manière normale de faire une étude, c'est de prendre à un endroit du cerveau, on quantifie l'activation fonctionnelle, et puis on va comparer ça à une variable génétique, mettons. Eh bien, on peut faire différemment. On peut partir en fait d'un découpage du cerveau en 500 régions ou 1000 régions, on appelle ça une parcellisation. On va prendre le signal fonctionnel moyen par parcelle et par sujet, on va corréler cette information à la variable qui nous intéresse, on obtient ici une carte statistique, on a gagné en sensibilité au moins un facteur 10 ou 100, grâce à la réduction du nombre de tests qu'on a fait. L'ennui, c'est que cette carte, évidemment, elle dépend d'un atlas qu'on a choisi arbitrairement au début. Mais pour s'affranchir de ça, on peut générer plusieurs atlas différents, mettons une centaine d'atlas différents, et moyenner la carte statistique, les détections qu'on a faites, à travers les atlas, pour obtenir une carte consolidée qui montrent à travers les atlas quelles sont les régions du cerveau qui montrent l'effet qu'on recherche. Ensuite, dans un test de permutation sur cet objet, eh bien, on obtient finalement les zones qui montrent une association. Et cette approche est plus sensible tout simplement parce qu'elle a pris en compte un a priori qu'on a important sur le signal, qui est que le signal est lisse spatialement. Il y a une structure spatiale du signal. Et en faisant cette statistique informée par la contiguïté spatiale de l'atlas, eh bien, on a pris en compte cet a priori. Et on a vérifié en effet que cette approche était meilleure. Alors, comment est-ce qu'on fait pour valider une méthode ? Eh bien, l'approche qu'on a suivie, c'est de prendre une très grande cohorte d'individus, donc 2000 individus. On détecte un effet sur les 2000, et on essaye ensuite de le reproduire sur des sous-groupes beaucoup plus petits. Et donc, si avec un échantillon beaucoup plus faible, on arrive à reproduire, à se rapprocher du résultat asymptotique avec le grand nombre d'individus, eh bien, c'est qu'a priori, on est sur la bonne piste. Donc ici, vous avez par exemple la carte d'un effet à travers 2000 individus, et puis ici, vous avez 4 tentatives pour le reproduire sur un groupe de 50 sujets. Donc vous avez la méthode habituelle avec les basée sur les voxels, ne détecte quasiment rien par manque de puissance statistique. Bon, vous avez des méthodes à état de l'art qui fonctionnent plus ou moins bien, et la méthode qu'on propose, eh bien, permet effectivement d'approximer très bien, avec un petit échantillon, le résultat qu'on aurait avec 2000 individus. On a pu également, avec cette approche, par exemple, trouver une association statistique entre des SNPs du gène RVCF, donc un gène proche de COMT, dans le thalamus droit, une association entre l'activation fonctionnelle et puis donc ces variables génétiques qu'on n'avait pas avec une approche basée sur les voxels habituelles. Deuxième idée, passer à des statistiques robustes. Alors je vais commencer par un exemple qui fait un petit peu peur, où on a commencé par détecter une corrélation entre un score d'impulsivité qu'on avait chez nos individus de la cohorte avec l'activation au cours d'une tâche. Donc on voit dans le thalamus droit une activation. Eh bien, quand on regarde les données d'un peu plus près, on voit qu'en fait, il y a quelques individus particuliers qui ont en fait attiré la droite de régression et qui nous ont fait croire qu'il y avait une association statistique entre ces variables. Maintenant, si on refait l'analyse avec une méthode robuste qui donne moins de poids à ces observations très différentes, eh bien, l'association disparaît. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'en neuroimagerie fonctionnelle, on a très facilement des données aberrantes, parce que vous avez l'expérience qui n'a pas marché, un artefact d'imagerie, le sujet qui a toussé pendant l'expérience, etc. Pour plein de raisons, vous pouvez avoir des données aberrantes, et il faut rendre l'analyse robuste à ce genre d'effet. Alors, par contre, dans bien des cas, eh bien, on peut gagner grâce à ces méthodes. On va être non seulement plus exact dans nos détections, mais on va être également plus sensible. Par exemple, je reprends l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec un SNP du gène OXTR dont on prend l'interaction avec le nombre d'événements de vie négatifs et qu'on cherche à corréler à l'activation lors d'une tâche fonctionnelle. Eh bien, on retrouve les activations du striatum ventral. On trouve également des activations corticales à l'aide d'une méthode de détection robuste, parce qu'on a en fait une modélisation du signal qui est plus exacte, qui est plus précise, et donc du coup on peut gagner en sensibilité sur les tests statistiques. Troisième approche pour nous sauver un petit peu de ce pétrin de l'analyse statistique, c'est passer par l'héritabilité. Alors l'héritabilité c'est quoi ? C'est la part de la variance d'un certain phénotype qui est expliquée par la structure de parenté. Et ça, évidemment, c'est un effet qui est très global, qui ne permet pas de localiser l'effet, mais qui permet au moins de s'assurer de la nature génétique d'une variabilité observée en neuroimagerie. Et donc, à ma connaissance, la première expérience qui a été faite en neuroimagerie fonctionnelle, c'est celle-ci, où on a pu montrer que l'héritabilité de la corrélation au sein d'un des réseaux du cerveau, donc, encore une fois, imaginez des sujets qui se reposent dans l'IRM, eh bien, vous avez un réseau très particulier qu'on appelle le mode par défaut, et dont l'activation, enfin la quantité de corrélation au sein de ce réseau est quelque chose de très héritable puisque la mesure d'héritabilité enfin, est de 42%. Et autre fait intéressant, c'est que cette mesure d'héritabilité n'est pas liée à un facteur anatomique. On a également l'héritabilité, par exemple, de la quantité de matière grise dans le cerveau, mais ce sont des facteurs génétiques différents qui expliquent les deux héritabilités. Alors, c'est intéressant, mais ça, c'était fait sur des sujets apparentés. Est-ce qu'on peut faire de l'héritabilité sur des sujets non apparentés? Eh bien, oui, on peut. Il suffit, par exemple, de prendre l'ensemble des variables génétiques, de les mettre dans une matrice de dessin, d'étudier leur effet commun. Également, on peut inclure des covariables qu'on veut supprimer, des facteurs de confusion, par exemple la provenance de données ou le sexe des sujets, si on pense que ça n'est pas intéressant. Et par des méthodes de régression multivariée, la régression RIDGE, eh bien, on peut essayer de prédire avec ça un phénotype d'imagerie et évaluer avec des techniques de validation croisée si on prédit effectivement une part du phénotype. Et donc on obtient un score statistique et on peut calculer sa significativité par un test de permutation. En faisant ça, on a pu montrer pour la première fois que l'activation dans 14 structures sous-corticales était donc significativement prédite par l'ensemble des SNP qu'on avait à notre disposition pour caractériser ces individus. Voilà, donc en introduisant cette analyse, cette régression multiple, j'ai introduit, sans le dire, une méthode d'analyse multivariée, et ça, on peut le généraliser. On peut, par exemple, essayer avec des données d'imagerie de grande dimension de prédire un score comportemental ou un diagnostic, et donc on fait ça avec des classifieurs de grande dimension. Et donc ici, je vous présente par exemple la régression logistique qui permet donc de prédire si les sujets appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2 en regardant un objet de grande dimension qui est l'ensemble de l'information de ces images fonctionnelles. Alors, on a utilisé ce genre de technique, par exemple, on peut utiliser ça pour prédire l'âge d'un sujet à partir d'une image anatomique. Pas simplement parce qu'on avait vu avec Jean-François la semaine dernière que le cerveau, mettons le cortex, s'amincit avec l'âge. Et ce genre d'information donc, permet de prédire à 5 ans près l'âge d'une personne, l'âge de son cerveau, à partir d'une image anatomique. Et même, c'est même mieux que ça, parce que 5 ans, c'est pour des adultes, mais à l'âge de l'adolescence, on peut prédire à 1 an près l'âge du sujet. Et ça, c'est intéressant pour étudier les scénarios de vieillissement précoce, liés à des maladies neurodégénératives ou à des démences séniles. Mais on peut aussi faire ça avec des informations fonctionnelles. Si on prend, encore une fois, la connectivité fonctionnelle de sujets pendant qu'ils se reposent, on prend donc simplement l'ensemble des valeurs de corrélation entre 160 régions, eh bien, il se trouve que ces valeurs de corrélation peuvent prédire l'âge des sujets, en tout cas au moins à l'âge de l'adolescence entre 7 et 30 ans, qui est effectivement un âge où les variations sont les plus dramatiques. Et d'un point de vue très, très qualitatif, ce qui se passe à cet âge-là, c'est que la part des connexions longues, donc en fait, les connexions à longue distance, sont plus fortes chez les individus plus âgés, donc avec la maturité. Enfin, je ne sais pas très bien comment il faut interpréter cela. Voilà. Je suis un petit peu en retard, donc je vais conclure. Peut-être un petit peu par mes biais personnels, j'ai insisté sur les développements méthodologiques qui était nécessaire pour arriver à modéliser le lien entre la fonction cérébrale et puis la génétique et les variables comportementales d'autre part. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes d'estimation, notamment des problèmes de régression multiple et de covariance dont je vous ai parlé. Il y a un problème important qui est le problème des données manquantes. Souvent, quand vous avez une base de données très complexe qui vient de plusieurs endroits différents, eh bien, vous n'avez pas observé tout chez tout le monde. Et trouver de bonnes stratégies d'imputation des données manquantes est en soi un problème très compliqué. On arrive aussi avec les études de cohorte à des calculs massifs, et donc l'efficacité calculatoire des méthodes devient un facteur essentiel. Et puis enfin, je pense quand même que l'obstacle principal et incontournable, c'est le manque de puissance statistique qu'on a avec les études actuelles pour détecter des effets très fins, très petits, qui sont donc l'impact des variables génétiques sur le fonctionnement du cerveau. Et ça, pour ça, il nous faudra plus de données. Il faudra également, donc, pour y arriver, il faudra qu'un partage des données beaucoup plus généralisé, de manière à pouvoir à la fois faire des études sur des plus grands groupes et les reproduire sur des groupes hétérogènes pour vérifier la solidité des résultats. Voilà, je voudrais simplement remercier les collègues de mon équipe et des collaborations avec qui j'ai travaillé sur l'ensemble de ces projets, et vous remercier pour votre attention.